Bon, lors de nos stages, il y a toujours une conférence concernant les sciences naturelles. C'est très, très important. Il n'y a pas que des profs de sciences nat dans la salle, mais ce sont des conférences on est interdisciplinaire aussi. Oui, oui. Et je trouve ça très important d'avoir une conférence justement sur ce qu'on appelle en général les sciences naturelles. On a une conférence sur l'histoire de la géologie il y a très longtemps par notre ami historien de la géologie dont je suis en train d'oublier le nom.
Mon maître Gabriel.
Voilà, Gabriel Gau, qui va toujours très bien. Que nous aimons beaucoup à l'espace Mendès France, oui. Et parce que en effet, il n'y a pas beaucoup d'historiens de la géologie ou les historiens de la géologie se font rares. Et quand tu me dis en effet que ton maître est Gabriel Gau, ça ne m'étonne pas parce que les historiens de la géologie se comptent sur les doigts de la main d'une autruche. C'est vrai, il n'y a pas beaucoup de monde qui fait l'histoire de la géologie. C'était pas une boutade, c'était la vérité. Donc je te remercie beaucoup d'être venu chez nous, Pierre Savaton, dont j'ai entendu parler. Donc je me suis dit tiens, je vais l'inviter à parler de l'histoire de la géologie. Donc tu as agrégé de sciences naturelles, maître de conférences en sciences de la terre à l'université de Caen en Basse-Normandie. Donc avec notre ami Jean-Pierre Le Goff, hein, qui est venu chez nous aussi lors des stages. Tu es rattaché au CERS. Je ne sais pas ce que c'est, UCBN, et associé au Centre François Viette de l'Université de Nantes. Nous savons quel est le Centre François Viette, et tu vas nous parler de la théorie de Wegener, la théorie de la translation avant la théorie de la tectonique des plaques, tout un programme. Voilà. Merci beaucoup, en tout cas, c'est très gentil. Merci à toi.
Oui, le CERS, c'est un centre d'études de recherche en sciences de l'éducation. D'accord. Dans les parcours un peu particuliers qu'évoquait Michel Cotte tout à l'heure, j'ai été prof dans le lycée, j'enseigne la géologie depuis maintenant une quinzaine d'années. Mais il se trouve que mon poste a basculé, je suis en histoire des sciences depuis septembre dernier, en associant justement les deux aspects. Ça, ce sont les particularités de la recherche, il faut qu'on soit rattaché dans une université, on peut être associé ailleurs, etc. Donc voilà, pour parler de géologie, alors j'en profite puisqu'on a évoqué le nom de Gabriel Gau, pour effectivement vous signaler, je ne l'ai pas mis dans la bibliographie, c'est un scoop, Gabriel sort un nouvel ouvrage chez Vibert qui devrait sortir vers le mois de mai-juin, dont le titre est encore incertain, probablement une histoire de la tectonique qui sera 19e-20e. Et donc qui reviendra aussi sur cette histoire des idées mobilistes, telle que je l'ai repris un petit peu ici. Hein. Donc je vous invite, quand il sort, à chercher cet ouvrage. Alors c'est un petit monde, mais c'est comme ce qu'on disait tout à l'heure pour l'histoire des techniques. C'est aussi cette particularité des transferts et des compétences requises pour passer sur les transferts qui fait effectivement que nous sommes peu nombreux... J'allais dire en France, ce qui expliquera pourquoi vous verrez dans la bibliographie, je vous ai mis une bibliographie générale française, mais je n'ai pas pu m'empêcher d'ajouter une bibliographie anglaise, et que dès qu'on rentre dans le spécialisé, elle est anglaise. Parce qu'il faut quand même savoir, les grands spécialistes de Cuvier géologues sont anglo-saxons, par exemple. Mais c'est vrai aussi si on s'intéresse à Brongniart, si on s'intéresse à Guettard, si on s'intéresse à quantité d'autres grands personnages. Il y a énormément de travaux de fait dessus, mais il n'y a pas de tradition française d'une histoire des sciences de la Terre. Alors, sans plus tarder, parce que je suis très bavard, j'essaie de me contingent. Voilà, alors c'est parfait. Donc, je reviens là-dessus. Je vous ai mis théorie de Wegener, théorie de la translation volontairement avant la théorie de la tectonique des plaques. C'est vrai qu'on associe souvent, surtout du côté du grand public, Wegener et la tectonique des plaques. On a tendance à ancrer l'une dans l'autre, voire même à en faire une continuité. Alors, sans vouloir rentrer dans cette discussion des continuités et ruptures, il y a bien un modèle proposé par Wegener, une théorie qu'il appelle lui-même une théorie de la translation des continents. Dans la période qui va nous intéresser, puisqu'on va voir qu'elle est très limitée, c'est 1915-1930. Après 1930, ça tombe extrêmement vite. Et il y a un deuxième temps qui conduit vers une théorie de la tectonique des plaques, qui n'est pas, bien évidemment, coupée de Wegener, mais il s'agit bien ici de deux théories. Et fondamentalement, on va le voir, de deux modèles, même si elles ont un point en commun, c'est de contester et de montrer, ou de démontrer dans un second temps, que l'aspect des continents n'est pas une permanence de l'allure de la Terre. Alors, Alfred Wegener, je ne reviendrai pas pour l'histoire de temps sur l'historique de l'homme, juste pour évoquer, parce que ça a son importance, c'est un météorologue et un géophysicien. C'est important, c'est-à-dire que dans cette communauté scientifique de la fin du 19e, début du 20e siècle, il n'est pas identifié comme géologue. ce qui est important, puisque dès l'instant qu'on est à l'interface, et ça rejoint des actualités, le regard porté par la communauté sur celui qui cause au nom de votre champ n'est pas le même si vous n'appartenez pas au champ. Et ça va être le cas pour Wegener. Deuxième aspect important, il est géophysicien fondamentalement, c'est-à-dire que c'est un physicien de la Terre. Il s'ancre ici dans un enseignement qui est une tradition de physicien, avec face à lui, très rapidement, on le verra, une épistémologie de la physique qui n'est pas l'épistémologie de la géologie de cette époque. Et puis, c'est un météorologue. La vie courte de Wegener en 1930 va se finir glacée au Groenland, puisqu'il est à l'origine de quantité d'expéditions sur le Groenland. Il étudie les climats, ses recherches sont fondamentalement là-dessus, et il meurt de froid dans sa dernière expédition, ce qui met une fin rapide, finalement, à sa théorie. En 1912, donc je vous ai mis ici les titres en allemand, Wegener fait en janvier, à 4 jours d'intervalle, deux conférences, la première devant la Société géologique de Francfort, c'est-à-dire une société géologique qui a une écoute certaine en Allemagne, mais pas plus qu'en Allemagne. C'est important pour la diffusion immédiate. Et 4 jours plus tard, devant la Société d'avancement des sciences de Marbourg. C'est pareil, c'est une de ces nombreuses sociétés savantes. Ça n'a pas une répercussion extrêmement importante. Mais la même année 1912, deux articles vont sortir sur le même propos que celui qui est tenu ici, puis un ouvrage en 1915. Pourquoi est-ce que je les rassemble? Parce que le propos est « Die Entstehung der Kontinente und Ozean » qui est rajouté après, c'est-à-dire en fait ce qu'on a traduit par la Genèse ou la naissance des continents. Ce qui est fort intéressant, c'est que les deux premières communications, les deux premiers écrits, le limitent à de la genèse des continents. Et cet ouvrage qui va sortir en 1915, qui en fait reprend ces communications et les enrichit, ouvre bien, et ça donne une autre dimension au propos, la genèse des continents et des océans, en rendant d'une certaine manière indissociable la genèse des uns de la genèse des autres. Ce qui est relativement important, parce qu'il y a un progrès déjà dans sa réflexion dans ces 3 années. Alors, l'idée forte, et après je vais l'ancrer un petit peu dans le passé, Wegener part d'une observation qui, comme on le verra, a été faite par d'autres au départ, mais qui pour lui est majeure, c'est partant de la complémentarité actuelle, donc l'image du bas ici, des côtes d'Afrique et d'Amérique du Sud, d'Europe et d'Amérique du Nord, donc une complémentarité plus précise qu'à l'échelle où est la petite vignette qui est ici, comme j'en reparlerai tout à l'heure. Partant de cette idée, c'est le point de départ, il revient sur l'idée un peu plus ancienne que toutes les masses continentales ont dû, à un moment donné, être regroupées en une seule masse. C'est ce qu'il appelle le Urcontinent, ce continent des origines, ce qu'il appelle aussi la Pangée, la Terre unique. Terme qui est plus ancien. Et c'est l'idée que si la masse continentale d'origine était unique, elle s'est fracturée et les blocs issus de cette fracturation ont dérivé. Alors il faut vraiment peser ces mots. Quand il prend dérive, c'est au sens de la dérive, et il le dira très clairement, d'un bloc de glace à la surface de l'eau. Mais si vous parlez de Wegener comme d'une théorie de la dérive des continents, alors qu'il parle, lui, de translation, c'est que vous réutilisez, sans le savoir ici, une critique très forte qui va lui être faite, parce que la dérive, c'est ce qu'on abandonne au hasard, c'est ce radeau qui n'est pas contrôlé, et la dérive, c'est aussi ce que ça signifie, c'est-à-dire c'est la perte de toute attache, de toute compréhension, et le mot dérive des continents est utilisé uniquement par les opposants à Wegener à cette époque-là. Donc après, évidemment, le sens sera différent, lui-même ayant utilisé ce terme, mais en 1928, j'en reparlerai à la fin, parler des thèses sur la dérive de Wegener est particulièrement négatif. Et c'est une position américaine, c'est le drift qui apparaît ici, une position qui est véritablement négative. L'idée rassemblée ici sur une double page, dans cet ouvrage de Wegener que vous trouverez, disons-le tout de suite, Wegener a écrit donc la première édition allemande en 1915, une deuxième édition en 1920, en 1922, en 1928, et il y aura une édition posthume en 1936 que son frère Kurt Wegener met en œuvre. Chacune des versions est une écriture complétée, voire même une reprise totale de la version précédente, qui intègre les critiques et les modifications du modèle depuis sa dernière édition. Et en 1924, une édition française a été publiée. Alors, elle est très difficile à trouver, même chez les bouquinistes, mais vous pouvez la trouver sur quelques bibliothèques universitaires et par le prêt entre bibliothèques, elle est consultable. Je suis allé vérifier avant de venir. Il y en a 3 exemplaires dans les bibliothèques universitaires qui traînent. Et il y a une deuxième édition, donc celle de 24 et la traduction française de l'édition de 22. Et il y a une deuxième édition par Lerner en 37 de l'édition de 36. Et cette édition a été reprise en 91. Il y a une réédition copie conforme de l'édition de 37 en 1991 chez Bourgois, qui est beaucoup plus disponible. Celle de 37, je le dis au passage, on peut la trouver chez les bouquinistes ou sur le web. Alors, je dis ça parce que c'est toujours intéressant quand même de retourner au texte, même si, évidemment, là, vous êtes dépendant d'une traduction, bien sûr, de ce texte, et que ça a son sens sur la difficulté de l'entendement, justement, de ce mot « translation », puisqu'il est évidemment chargé des modèles que l'on peut avoir à l'époque, et que le traducteur est pris entre plusieurs sens possibles, et que le choix qu'il va opérer n'est pas sans conséquence. Wegener développe cette idée, donc si on repart de la vignette du bas, on reprend dans l'autre sens, on remonte au continent unique, il développe l'idée que cette masse unique, qui devait être unique à la fin de ce qu'on appelle en géologie le carbonifère, en gros, autour de, pour les dates qu'il va donner, c'est un petit peu variable, 280 millions d'années dans l'histoire de cette Terre, cette masse unique s'est fracturée progressivement. Pour cela, il met en avant, et on reviendra sur les arguments, une première séparation assez précoce entre l'Amérique du Sud et l'Afrique. Parce que au-delà de cette date, les arguments géologiques, la nature des terrains, la nature des fossiles et d'autres arguments que nous développerons, font qu'elle semble avoir une histoire séparée, alors que au-delà, à plus de 285 millions d'années, si on parle plus moderne, elle semble avoir une histoire commune. Donc l'idée de Wegener s'appuie fondamentalement sur de l'argument géologique. S'il sépare ainsi ces deux blocs, donc assez précocement, en gros, il va finir par les séparer véritablement au Crétacé. Il sépare l'Amérique du Nord de l'Europe au tertiaire, c'est-à-dire de manière un petit peu plus jeune, voire même à la fin du tertiaire, début du quaternaire pour l'Amérique du Nord et le Groenland. Regardant ce qu'il en est d'un autre bloc que vous avez sur l'image du milieu, c'est-à-dire ce qui deviendra l'Australie, ce qui deviendra Madagascar, ce qui deviendra l'Inde actuelle, Wegener avance une troisième histoire avec une séparation plus ancienne jurassique. Si je résume, son idée, c'est d'un bloc unique du carbonifère, d'une masse unique, d'un continent unique, il y aurait une fracturation progressive qui commence au Crétacé, qui se poursuit dans le tertiaire et le quaternaire et qui ouvre ce qu'on appelle aujourd'hui l'océan Atlantique. Donc Wegener dit l'océan Atlantique n'existait pas avant cette ouverture et de cette manière, l'océan Atlantique, la naissance de l'océan Atlantique, c'est quelque chose qui est lié à la naissance de l'Amérique du Sud, de l'Afrique, etc. Même chose si on prend le cas de l'océan Indien. L'océan Indien n'existait pas tant que l'on n'avait pas déplacé cette masse Australie, Madagascar, Antarctique qui était collée au sud de l'Afrique et tant qu'on n'avait pas remonté l'Inde. Donc il lie bien à la fois la fracturation pour arriver au paysage d'aujourd'hui, la géographie d'aujourd'hui, avec la naissance de ces océans. Cette hypothèse de Wegener, les Américains l'appellent bien souvent l'hypothèse de Wegener-Taylor ou Taylor-Wegener. Wegener, lorsqu'il écrit, donc lorsqu'il communique en 1912 et lorsqu'il écrit en 1915, ne semble pas être au courant d'une communication qu'a fait Frank Bursless Taylor. Cette communication date en fait de 1908, elle a été faite à Baltimore, c'était devant la Société géologique américaine. C'est relativement important, c'est-à-dire que forcément, ça fonde, à cause du bulletin d'une société, ça fonde sa légitimité en Amérique. Et avec la diffusion de ce bulletin, ça lui donne une certaine antériorité. Il est publié en 1910, hein, j'ai mis ici le titre. Alors, « The Bearing of Tertiary Mountain Belt » vous renvoie sur une autre considération. Il est entré par du très récent. Et l'entrée de Bursley Taylor, c'est considérant l'orientation des grandes chaînes de montagnes que sont l'Himalaya et les Alpes, qui sont formées de terrains qui, en géologie, sont rapportés à des périodes antérieures, bien sûr, mais qui ont une signature tertiaire tout à fait particulière. Il date ces grandes chaînes du tertiaire. Et ces grandes chaînes, quand il les poursuit, il les voit coupées par l'océan Atlantique, qui est donc un nord-sud sur une orientation de l'Himalaya comme des Alpes, qui sont plutôt un est-ouest. Donc il le voit comme une rupture dans une histoire fondamentalement qui était une histoire est-ouest. Pourquoi une histoire SOS? C'est sa question, d'où l'idée que c'est lié à la rotation de la Terre et à une fuite, donc une déformation, une poussée des continents allant des pôles vers l'équateur, qui aurait déterminé un plissement, une déformation est-ouest. Pourquoi? Parce que son cadre de pensée à lui est un cadre sur l'origine de la Lune, sur le fait que la capture de la Lune par la Terre a modifié la vitesse de rotation de la Terre et que la vitesse de rotation de la Terre, en s'accélérant, dit-il dans son premier modèle, a dû créer une force supplémentaire qui repoussait les terrains des pôles vers l'équateur. Donc ça entre dans un modèle qu'on n'a pas le temps de développer, mais qui est un modèle qui est lié ici à une autre considération sur la Lune. Alors que sa spécialité, c'est essentiellement l'étude des terrains relativement récents, ce qu'aujourd'hui on appelle le quaternaire. Donc il entre par une entrée très particulière, son observation de l'existence d'une grande chaîne du tertiaire, ce qu'il appelle une fracture, et fracture au sens où ça coupe cette belle régularité est-ouest. Il fait donc de l'Atlantique un océan né après la formation de cette chaîne, donc plus récente ici que celle des formations tertiaires, qui interviendrait en quelque sorte dans la belle unité d'origine qui devait former toute cette masse continentale. Bon, Wegener reconnaît pour la deuxième édition qu'il a pris connaissance, et de toute manière on est bien obligé de le croire, car les réactions très fortes qui vont être contre l'hypothèse de Wegener quand elles viennent des États-Unis réagissent aussi par rapport à la position de Taylor. Petite remarque intéressante, Taylor qui travaille sur le quaternaire prend la même image pour dire que ces masses continentales qui se sont fracturées à partir d'un continent unique, donc c'est aussi son idée, se sont déplacées comme des blocs de glace à la surface des grands lacs. Alors pourquoi lui la surface des grands lacs? Parce que c'est son terrain d'étude, il travaille sur le quaternaire, le pléistocène des grands lacs. Wegener avait la même image, mais sur la dérive des blocs continentaux qui viennent du vélage des glaciers du Groenland. Donc cette image de la dérive, c'est vrai, elle est là, et elle est prise comme, à chaque fois comme une image pour expliquer ce qui s'est passé à l'origine de ces grands blocs. En cherchant un peu, j'ai dû le remettre derrière, en recherchant un peu, et Wegener le reconnaît dans les éditions successives, cette idée de la fracturation et du déplacement a été avancée, mais a été avancée comme une idée, sans modèle construit, sans étayage, sans argumentaire par derrière, à la fois par Green en 1957, où j'ai remis ici deux petites images de Pellegrini, où on voit très bien ici un monde avant formant un seul bloc, et puis une fracturation. Et dans les deux cas, on s'aperçoit que le contour, par exemple, de l'Afrique est exactement complémentaire de celui de l'Amérique du Sud dans ses reconstitutions. Donc l'état actuel est un résultat direct de la fracturation de l'état antérieur sans que l'on ait ni effacé de surface, ni ajouté de surface. C'est relativement important à prendre en compte. Bon, en cherchant un peu plus loin, dans la corruption du grand et du petit monde de François Placet en 1668, il y est dit qu'à un moment donné, toutes ces masses ne formaient qu'un bloc. Mais là aussi, ça mérite d'être creusé. Ce n'est pas parce qu'on a affirmé à un moment donné cette idée que tous les continents ont formé un bloc qu'il y a une antériorité sur le modèle de fracturation des continents ou de la Pangée. Donc je laisse de côté, mais c'est vrai qu'on les trouvera assez couramment. Ce qui m'intéresse beaucoup plus, c'est de voir que ces écrits de Wegener, et cet écrit qui est un écrit de synthèse, je vais y revenir après, Wegener a énormément lu. Wegener a lu à la fois des écrits de recherche en botanique, en zoologie, en géographie, en paléontologie, en tectonique, en physique, en géophysique, en mathématiques, sur l'refroidissement, sur un très très grand nombre de champs. Donc c'est véritablement un modèle synthétique, peut-être le premier modèle synthétique qu'il propose à travers sa théorie de la translation. Mais en même temps, derrière le modèle qu'il propose, il y a tout un héritage, au moins un siècle d'héritage, ici, d'idées. Raison pour laquelle je pense qu'il est important de revenir un petit peu avant sur ce cadre théorique pour voir que ça ne naît pas une synthèse de genre comme ça dans la tête d'un homme tout seul, sans ancrage beaucoup plus ancien. Alors, l'ancrage le plus ancien, l'incontournable, pour la géologie, on a un avantage, je dirais, par rapport à d'autres sciences, c'est que c'est une science très jeune. La géologie comme science se fonde véritablement à la fin du 18e, début du 19e, par l'association à la fois de théories que l'on peut dire spéculatives, les théories sur la Terre, sur l'origine, la constitution, dans lesquelles on trouve des gens comme Descartes, par exemple, qui a des propositions, ou Leibniz dans sa protogée, etc. Donc,
l'apport de ces théories, l'apport aussi d'empiristes qui sont des hommes qui partent de l'observation de terrain, qui cherchent, et ça m'a beaucoup intéressé pour mes recherches sur l'histoire des cartes géologiques, qui cherchent à savoir quelle roche à quel endroit et qui cartographient, on le disait dans la présentation ce matin, on est dans cet élan de l'inventaire et de l'inventaire sur un nouveau fond qui est la carte, ce nouveau langage graphique qui naît véritablement ici là, pour la géologie au début du 19e, et puis d'un troisième acteur sur lequel je travaille actuellement, qui est probablement la géologie expérimentale de la fin du 18e, début du 19e, donc dans le croisement de ces trois acteurs. Alors ce troisième acteur est le petit pousset pour le moment, hein, puisque traditionnellement on considérait qu'il y avait surtout deux acteurs. Sally Newcombe a développé il y a une quinzaine d'années la possibilité du troisième qui m'intéresse beaucoup. Alors revenons sur la question de la géologie naissante du 19e. La question, et je vous renverrai au travail de Gabriel Gaud, il en avait fait sa thèse d'état autrefois, c'est la formation des chaînes de montagne et la question de comment se forment les chaînes de montagne. Or, cette question, elle est associée à la théorie de la contraction. On la trouve, cette idée, et c'est pour ça que j'ai remis ce nom, chez Élie de Beaumont. Mais Élie de Beaumont reprend ici l'idée de refroidissement de la Terre, qui est une idée qui a déjà été développée chez Descartes, chez Leibniz, mais également dans le modèle qu'on appelle le modèle de Kant et Laplace. La Terre, à l'origine, devait être une boule entièrement en fusion qui s'est refroidie au cours du temps. Ce refroidissement a permis la solidification de la partie extérieure de la Terre, la croûte. Par définition, elle s'appelle ainsi la croûte. Tant qu'à ce qui se trouve en dessous, c'est plus complexe. C'est plus complexe. La nature des terrains ne permet pas, en fonction des auteurs, d'assurer que tout serait solide ou non. Alors, dans le modèle d'Élie de Beaumont, et on va voir que ça va se compliquer simplement après, dans le modèle d'Élie de Beaumont, qui est le modèle du début du 19e, la Terre est un corps solide qui est en train de poursuivre son refroidissement. Mais, et c'est ça qui est important, s'il existe encore du volcanisme, c'est qu'il y a des poches de cette matière liquide d'origine qui peuvent atteindre la surface. Donc le volcanisme, c'est l'expression d'un état de fusion qui est un état d'origine, qui se retrouve ici. Pour Élie de Beaumont, si la Terre se refroidit, elle se contracte. Si elle se contracte au cours du temps, ça veut dire que la surface externe devient, entre guillemets, trop grande pour la nouvelle surface liée au refroidissement de la Terre. D'où cette idée qu'avance Élie de Beaumont, que cette Terre, c'est donc en se refroidissant, s'est contractée, s'est déformée, s'est plissée. Et que les plissements qui apparaissent à la surface de cette sphère n'apparaissent pas de manière quelconque. Élie de Beaumont, on n'a pas le temps de le discuter, mais c'est un ingénieur des mines, polytechnicien, ingénieur des mines, brillant. C'est donc aussi un brillant mathématicien. Et c'est un homme qui cherche, dans ses observations, quelles sont les lois et les lois mathématiques qui gouvernent les observations. Et donc, il va s'orienter très vite vers la recherche d'une loi mathématique ou d'un cadre mathématique pour penser la déformation de la Terre, ce qui l'amène à proposer que cette sphère a dû se refroidir avec de grands cercles, de grandes lignes, où on a concentré la déformation, ça a formé des grandes chaînes de montagnes. Donc sa théorie, la chaîne de montagnes se forme, concentrée lors de grandes lignes. Et ce qu'il propose, c'est un modèle pentagonal, puisque les formes géométriques qui permettent de reconstituer bien sûr une sphère, c'est un modèle comme un ballon de foot, hein. C'est-à-dire c'est un modèle en dodécaèdre, réseau pentagonal. Il propose qu'au cours de l'histoire de la Terre, au cours du refroidissement de la Terre, il y a des phases de refroidissement qui ont déterminé la formation de chaînes de montagnes. Et ces chaînes de montagnes n'ont pas une orientation quelconque, elle est déterminée par des lois mathématiques. Donc l'orientation permet aussi de dater le moment. À un moment de l'histoire de la Terre, une orientation. C'est pratique comme modèle. Quand il propose son modèle en 1829, il a identifié quatre grandes directions. Quelques années plus tard, il en identifie 8, puis 12, puis 15, puis 20. 20 ans plus tard, il envisage qu'on puisse en trouver une centaine, ce qui rend évidemment infalsifiable, si on reprend Popper, sa théorie, parce que trouver une nouvelle déformation, ça ne remet pas en cause celle qu'il avait, ça fait juste une chaîne supplémentaire et un événement supplémentaire dans le refroidissement de la Terre. Alors, il est très imprégné par la théorie catastrophiste qu'on retrouve chez Cuvier, du côté de cette évolution des espèces, où on sait qu'il y a des successions dans l'histoire de la Terre, on voit des successions de faunes, les faunes les plus anciennes qu'on trouve dans les terrains les plus profonds, ont l'air beaucoup plus primitifs que les faunes qu'on trouve dans les terrains qui sont au-dessus. Ça a amené Cuvier à penser qu'il y a eu une succession de faunes séparées par des grandes catastrophes, cette vision catastrophiste où il n'y a pas d'évolution des espèces, elles sont fixes, mais elles se renouvellent parce qu'à un moment donné, elles disparaissent et on recommence. Eh bien, chez Cuvier, chez Cuvier se traduit chez Lide Beaumont par l'idée que, à certains moments, au lieu que le refroidissement de la Terre soit continu, à un moment donné, il y a une crise, une déformation, un effondrement et la formation d'une chaîne de montagnes. Ce cadre de pensée se retrouve chez Henri de Labèche. Et Henri de Labèche, avec son nom bien français, c'est un Français qui a migré quelques générations avant en Angleterre. Henri de Labèche est un des piliers de cette géologie naissante du début du 19e anglais. Et elle trouve donc une continuité, puisqu'il développe ici ce même modèle. Ce qui nous intéresse du modèle, c'est refroidissement de la Terre entraîne déformation, formation d'une chaîne de montagnes. Bon. Ceci trouve un opposant et de taille en Angleterre. Charles Lyell, pour l'histoire de la géologie, c'est un des piliers de l'histoire de la géologie, avec son traité sur la géologie de 1833 en trois volumes. Charles Lyell développe, pour faire court, cette idée que les causes d'autrefois sont semblables aux causes d'aujourd'hui, ce qu'on a traduit par cet uniformitarisme et qui va être utilisé en géologie pour dire... Pour comprendre ce qu'on observe dans les couches du passé, eh bien, regardons les phénomènes géologiques d'aujourd'hui, c'est la clé de la compréhension des couches du passé. Or, ce modèle, évidemment, s'oppose à l'idée que la Terre ait pu être autrefois beaucoup plus chaude et obéir donc à des règles qui ne seraient plus celles d'aujourd'hui. Donc, Lyell est opposé à cette idée et forcément est opposé aux idées qui découlent de la première idée. Donc, il y a en Angleterre, il y a ici une discussion. En France, il n'y en a pas, il n'y en aura pas, ça tiendra tout le 19e. Pour une autre raison qui a aussi son intérêt, le personnage. Élie de Beaumont va succéder en 32 à Cuvier. Il entre en 35 à l'Académie des sciences. Il en est élu secrétaire perpétuel de mémoire en 53. En 61, il devient inspecteur général en charge du Conseil des mines. Et en 1868, il a la charge de la cartographie géologique française. En gros, rien de la géologie française ne peut se faire sans son aval. Dit autrement, rien ne peut être développé sans qu'il ait donné son aval. Donc il n'y a pas d'idée contradictoire, et c'est aussi le poids que va exercer Élie de Beaumont. En gros, il bloque la géologie française sur cette idée de ce lien refroidissement-contraction. On en trouvera l'expression la plus aboutie dans un traité d'Edouard Suess, qui est professeur à Vienne, parce que ce modèle ici français, c'est aussi le modèle européen qui se développe avec cette petite discussion du côté donc de l'Angleterre, et puis je l'évoquerai en deux, trois mots, une petite divergence du côté américain. Edouard Suess est un paléontologue qui s'est beaucoup intéressé ici aux Alpes, sous l'angle de la paléontologie, c'est-à-dire sous l'angle des fossiles qu'il trouve dans les roches, pour essayer de comprendre les couches et l'histoire, la succession des couches qui ont donné naissance aux Alpes. Donc on lui doit tout d'abord ici cet ouvrage de 75 sur la genèse des Alpes, et puis sa synthèse beaucoup plus achevée, beaucoup plus longue, qui arrive un peu tardivement, c'est-à-dire qu'il y développe 10 ans plus tard les idées de sa genèse des Alpes, donc qui sort dans La face de la Terre, Das Antlitz der Erde, qui va sortir très vite, dès 1885, ça sort dans une traduction française, qui ne sera achevée pour le dernier tome qu'en 1909, et ça a son importance. La traduction anglaise, commençant en 1904, pourrait être achevée de mémoire en 1914. Ce qui a pour conséquence que le temps de diffuser et de traduire, son modèle est déjà largement périmé, entre guillemets, par rapport à la représentation scientifique de la communauté de l'époque. Dans son modèle, et je l'ai remis ici, je n'ai pas le temps de l'aborder, je vais prendre cet aspect-là. C'est lui, Edouard Suess, qui arrive à cette proposition que finalement, il faut penser l'histoire de la géologie en termes de formation des chaînes de montagnes, mais aussi d'évolution des phénomènes, de dépôts, des conséquences, des bassins qui se créent, dans ce cadre véritablement du refroidissement. Il écrit, c'est ce que je vais marquer ici, c'est à l'écroulement du globe que nous assistons, et il prend cette image extrêmement véhiculée par la suite de cette pomme, de même qu'une pomme qui, en séchant par l'évaporation de l'eau intérieure, présente à sa surface des rides plissées, le globe terrestre, par son refroidissement et par la contraction résultante de son intérieur, a donné naissance au plissement de son écorce. Cette théorie de la pomme flétrie de Suess, exprimée ici avec une volonté de vulgarisation, évidente chez Suess, explique bien le cadre dans lequel se pense la déformation et les continents à cette époque. Les reliefs du continent sont liés ici fondamentalement à ce refroidissement. Deuxième aspect que je veux retenir de Suess, il y en aurait de multiples. Suess, qui est un paléontologue, a observé une communauté, une ressemblance, une convergence, voire même les mêmes faunes et flores en Amérique du Sud, par exemple, et en Afrique, ou en Inde et à Madagascar. C'est-à-dire que par la paléontologie, il est déjà sur l'idée qu'il devait y avoir une continuité entre des zones géographiques aujourd'hui séparées. La question est de la nature de la continuité. Suess est à l'origine de la création du terme de Gondwana. Gondwana pour désigner une surface qui contiendrait des régions géographiques d'aujourd'hui. Mais comment contiendrait-elle ces régions? C'est-à-dire comment, dans la surface qu'on appelle Gondwana, on crée un lien entre l'Afrique, l'Inde, Madagascar? Eh bien, une idée moderne qui vous influence tous, c'est de dire qu'il suffit de les regrouper, ça forme qu'une masse. Mais si on se replace, il y a une autre possibilité. C'est qu'il y avait une continuité et que cette continuité a disparu, que ça formait un continent qui est beaucoup plus grand, dont une partie s'est affaissée, et donc a formé les océans. Non pas la fracturation d'un bloc et la migration d'un bloc, mais la transformation d'une zone qui était continentale en une zone que serait une zone océanique. Et c'est son deuxième modèle. Dans le modèle de Suess, la continuité, elle se fait par, je reviendrai tout à l'heure, par des ponts continentaux, c'est-à-dire par des bandes de terre à statut continental et qui ont pu disparaître au cours du temps, qui se seraient donc affaissées, qui sont passées sous le niveau des mers et qui ont créé la discontinuité. Ce qui est important, c'est de voir que le modèle qui est issu en fait de ce modèle du refroidissement et de la contraction et de la formation des chaînes de montagnes, c'est un modèle qui, même si sur des arguments paléontologiques, il permet de faire naître l'idée de rassemblement, d'unité, de structure beaucoup plus grande, il ne propose pas de regrouper en quelque sorte ces blocs aujourd'hui séparés en faisant la dérive inverse, en les remontant vers un bloc unique, mais en affaissant. Parce qu'on est dans un contexte de refroidissement avec de la contraction, de la déformation, de la montée et de la descente, de la poussée vers le haut et de la poussée vers le bas. Suess, au passage, est à l'origine du terme d'eustatisme, pour cette idée qu'on a des poussées eustatiques positives et négatives, et que lorsqu'il y a une poussée vers le haut d'un côté, il doit y avoir un effondrement de l'autre. Donc une poussée qui crée une chaîne crée aussi un bassin dans lequel peut s'accumuler des débris. Donc il y a ici un modèle qu'on n'a pas le temps de développer, mais qui est parfaitement logique. Et si j'insiste là-dessus, c'est que souvent la crainte que j'ai, c'est de croire qu'il y avait des modèles mal construits, et puis il arrive un modèle construit. Chacun de ces modèles est parfaitement bien construit et obéit à quantité d'arguments. Alors, je n'aurai pas le temps de le développer, je l'ai mis là juste pour l'évoquer. Ce modèle qui imprègne l'Europe n'est pas le modèle qui imprègne les États-Unis. Les États-Unis ont un très grand géologue, James Dwight Dana, 1813-1895. À 25 ans, il s'embarque pour 4 ans d'expédition sur le Winkles, qui part explorer ici le Pacifique. Il fait tous les îlots du Pacifique, il en revient avec quantité de notes. Ça doit vous évoquer Charles Darwin d'une autre manière. Et le restant de sa carrière, il va exploiter ses notes. Mais les notes, il en a de très très nombreuses. Et son ouvrage de 1849, Geology, et le manuel qui va suivre, dont je vous ai mis les rééditions, comme vous le voyez, va marquer pendant 50 ans la géologie américaine. C'est le traité qui explique la géologie et finalement l'histoire de la Terre. Donc on est dans un cadre qui est un petit peu différent. Pour faire bref, le modèle que développe Dana, qui sera repris par Willis, qui a quelques variantes près, étaient aussi un petit peu le modèle de Hall, même si, ou James Hall, même si Hall et Dana vont s'opposer à un moment donné, c'est le modèle d'une permanence des océans et des continents. La Terre a toujours eu des zones de continents et des zones d'océans, à peu près dans les positions où elles se trouvent. Dans le modèle de Dana, au départ, les mers occupaient une surface bien supérieure à l'actuelle. Et au fur et à mesure que le fond des mers s'est affaissé, l'eau s'est retirée des terres, découvrant et laissant des terrains, ce qui explique, selon le modèle de Dana, que l'on trouve à l'affleurement des terrains d'âge différents. Et que, évidemment, quand vous vous rapprochez de... Je dis évidemment, vous voyez, je suis déformé par... Quand on s'approche de la bordure d'un continent, on trouve les terrains les plus récents en dessous des terrains les plus anciens. Et forcément, dans le modèle de Dana, puisque c'est lié au retrait de l'eau. Donc, au fur et à mesure qu'elle se retire, vous trouverez sur la bordure. Et ceci n'est pas faux pour d'autres raisons, mais il y avait d'autres interprétations possibles. Donc le modèle de Dana, fondamentalement, va s'opposer ici, dans son modèle à lui, le fond de cet océan s'abaisse. Et donc, les continents ont toujours été ici, les océans aussi. Si quelque chose varie, c'est l'allure de la limite. Deuxième élément important dans le modèle de Dana, c'est que Dana remarque que les fosses océaniques que l'on connaît, on n'a pas le temps de parler de la bathymétrie, mais on est quand même ici très rapidement dans la deuxième moitié du 19e, on a une bathymétrie, certes, au vu d'aujourd'hui approximative du fond des océans, mais qui a permis de repérer qu'il y a une chaîne de montagnes au milieu de l'Atlantique et qu'il y a de grandes fosses océaniques. Or, il a repéré aussi que ces fosses océaniques, si on prend celle de l'Amérique, est bordée par une chaîne de montagnes, la plus grande, la plus belle, celle qui fait toutes les rocheuses et qui se poursuit par les Andes. Il a repéré aussi que si vous prenez l'arc volcanique des Mariannes ou des Tonga, vous avez à la fois une fosse et une chaîne. Donc, il a repéré l'association à chaque fois d'une fosse et d'une hauteur, d'un haut et d'un bas. Et donc, il en note cette particularité en expliquant que finalement, on est toujours dans un équilibre et que les sédiments qui viennent combler une cuvette, en poussant sur le fond de cette cuvette, en s'accumulant, finissent par déformer la bordure et de créer un relief. Le relief qui s'érode vient dans la cuvette, qui repousse et qui reforme une bordure. Dans le détail, c'est un peu complexe. C'est là où la discussion avec Hall, c'est sur ce qui génère ou régénère le relief de départ. Parce que si le modèle est satisfaisant dans l'idée que vous usez la montagne et vous comblez la fosse qui est à côté, reste le moteur qui, au bout d'un moment, maintient la fosse. Alors, la réponse, elle est simple. Elle est de dire ça s'enfonce. Ça s'enfonce parce que ça pèse. C'est ce que va proposer Dana. Ça pèse tellement que ça s'enfonce. Ce que va proposer Hall, pardon, je corrige. Dana est opposé à cette idée-là. Pour lui, il faut un autre moteur. Et son moteur, c'est quand on commence à enfoncer, on amène sous pression des terrains. Et les terrains, ils sont d'autant plus sous pression que vous en avez fortement accumulé dans cette fosse. Or, latéralement, la chaîne est à une pression qui est inférieure. Et donc, l'idée de Dana, si on veut la développer, il faut la comprendre dans un contexte de pression et de poussée. S'il y a une poussée plus grande d'un côté que de l'autre, alors les matériaux vont se déplacer. Mais si on passe d'une forte pression à une faible pression, alors les matériaux peuvent fondre. S'ils fondent, vous produisez un liquide qui est moins dense que l'encaissant et le liquide pousse et remonte. Donc il y a là aussi, si on le détaille, quelque chose qui permet d'expliquer comment en accumulant des sédiments dans une cuvette, dans une fosse, vous pouvez exercer une pression, les porter à grande profondeur, faciliter un déplacement latéral, entraîner une décompression, permettre une fusion, entraîner une poussée, c'est-à-dire tout un modèle d'entretien qui permettrait de maintenir cette permanence, puisque toute difficulté d'un modèle sur la permanence, c'est l'entretien de la permanence. Depuis Hutton, on est sur cette idée difficile de il faut entretenir les structures. Donc là, je n'ai pas le temps de l'évoquer. Autre élément à prendre en compte dans ce cadre aussi, c'est la naissance, dans la deuxième moitié du 19e, de ce qu'on a appelé, à partir de 1892, la théorie de l'isostasie. C'est-à-dire, ici, un élément que va reprendre, une théorie que va reprendre Wegener, qui, il faut le dire tout de suite, dans le champ de la géophysique, fin 19e, début 20e, doit avoir autant de partisans que d'opposants, voire peut-être même plus d'opposants. De quoi s'agit-il ? Everest, George Everest, c'est bien sûr le personnage qui a donné son nom à l'Everest. Everest le colonel Everest est en charge du service géodésique de l'Inde. Et en 1830 et 1847, il a fait deux fois les mêmes types d'observations. Il essaie de mesurer, il veut déterminer le méridien indien. Et pour ça, il mesure la distance qu'il y a entre deux villes, Kali Anna et Kali Ampur. Il a deux moyens de le mesurer. Il a la partie classique, j'allais dire, l'observation astronomique. Et puis, il a sa géodésie locale, son déplacement par nivellation. Ce service de la carte qui se trouve en Inde a pour but de construire la carte des Indes. Et pour faire du nivellement, on se déplace avec, comme on le devine, un niveau avec une lunette de visée et puis une barre. Qu'il faut s'assurer d'avoir bien mis à la verticale. Pour la mettre à la verticale, on utilise un pendule. Une masse qui est donc attirée par d'autres masses. D'où l'idée de croiser, ça c'est l'habitude. D'où l'idée que va avoir Everest quand il constate que mesuré par une méthode ou mesuré par l'autre méthode, il a un écart dans la distance entre ces deux villes. L'hypothèse qu'il va formuler, c'est que peut-être que dans son modèle d'ellipsoïde où il fait entrer une valeur de G, peut-être qu'il n'a pas la bonne valeur de G et que le modèle qu'il a pris ne prend pas en compte la masse que représente la montagne, qui se trouve juste au nord de ces deux villes de Kalyana et Kuala Lumpur. On est près de New Delhi, si on veut situer ces deux villes actuellement, de part et d'autre de New Delhi. Donc, son hypothèse ne va pas aller plus loin. C'est l'idée que c'est peut-être une erreur sur sa mesure de G. Deuxième personnage que l'on connaît, c'est Pratt. Pratt va reprendre ses idées ici en 1854 en faisant l'hypothèse que la masse montagneuse qui est au nord, dans les modèles que l'on calcule du pendule, on a calculé en fait ce qu'elle représentait comme masse. Comment ? En connaissant la densité des roches que l'on trouve à l'affleurement. Et donc ce qu'il propose, c'est qu'on s'est trompé sur sa masse réelle. C'est l'idée que, en gros, elle pèse moins lourd. Il y a un déficit de masse, dira-t-il. Et inversement, quand on va sur la côte, propose Pratt, on avait remarqué sur la côte qu'on a des erreurs de mesure qui semblent être dans l'autre sens. Il dit, quand vous êtes sur la côte de l'Inde, il y a un excès de masse. Donc, Pratt arrive à l'idée que, dans les modèles qu'on a imaginés de la Terre, il faut penser véritablement cette Terre avec des variations de densité dans ce qu'on appelle la croûte terrestre de l'époque. Donc l'idée de départ de Pratt, elle est là. Alors, on n'a pas le temps de développer, mais dans le contexte scientifique, pour publier un article, vous envoyez l'article, il est lu par un autre. Celui qui lit l'article pour le présenter à la Société géologique de Londres, c'est Herry. Herry lit cet article, le trouve très intéressant, propose une autre hypothèse qui est de dire, soit c'est une histoire de racines, terme qu'on doit à Pratt, cette idée que finalement la chaîne de montagne que vous voyez au-dessus se prolonge en dessous, sur des matériaux qui seraient plus denses, ou autre possibilité, dira Herry, Pratt propose des variations latérales, autre idée, dira Herry, c'est que la chaîne se prolonge en profondeur et que finalement, les masses continentales, et c'est ça qui m'intéresse, les masses continentales peuvent être assimilées à des roches de moindre densité flottant sur un autre niveau de roche beaucoup plus dense. Niveau de roche beaucoup plus dense que vous trouvez dans le fond des océans. Ce qui amènera Suez à nous proposer un modèle qui est relativement simple. Toutes les masses continentales d'une densité moindre, aux alentours de 2,8, reposent sur une deuxième couche qui n'apparaît qu'au niveau des océans, d'une densité légèrement supérieure, probablement vers 2,9. C'est-à-dire que vos masses continentales sont posées sur ce qui forme le fond des océans. Donc vous avez un modèle qu'on retrouve chez Suez, un modèle de roche légère reposant sur des roches lourdes. Après, comment est-ce que c'est en dessous de la croûte ? Ce n'est pas la question du moment. Mais bien, dans ce modèle, il faut bien voir, c'est une croûte qui est formée de blocs reposant sur un autre bloc. Et il utilisera, et là, quand je dis « il », c'est de Suez qu'il s'agit, le terme de « sial », parce que chimiquement, ces roches continentales sont essentiellement formées de minéraux qui contiennent silice et aluminium, et que les roches du fond des océans sont formées de roches riches en silicate avec une quantité en magnésium extrêmement importante. Une fois de plus, pour montrer la pertinence du modèle, Suez fait remarquer que lorsqu'il y a une activité volcanique, une fissuration, une fracturation des volcans au niveau des croûtes continentales, en règle générale, la roche que l'on trouve, c'est un basalte, c'est-à-dire une roche qui a les caractéristiques du fond des océans. Ce qui prouve bien que si les continents reposent sur les océans, quand vous en venez à fracturer un continent, vous devez faire remonter ce qui se trouve en dessous. Et donc, effectivement, c'est bien ce que l'on voit. On y trouve des basaltes qui ont la caractéristique du fond des océans. Petite remarque, je ne l'ai pas évoqué, mais on connaît le fond des océans parce qu'on drague. On drague des roches dans le fond des océans. Volontairement ou involontairement, la pose du câble transatlantique à la fin du 19e fait qu'on s'est trompé sur la longueur du câble à déposer. On l'avait calculé avec une certaine topographie. Il y a trop court parce que la topographie est plus forte, il y a une grande chaîne. Alors il faut revoir ça, il faut récupérer le câble. Récupérer un câble, quand il est tombé, il faut des grappins. On y remonte souvent des roches plutôt que le câble. Et donc il y a quantité de choses qui font que des roches du fond, on en a beaucoup. Et on sait que c'est parfaitement homogène pour aller de l'Europe en Amérique. Donc on a un modèle, hein, pour ne pas freiner là-dessus, on a donc un modèle, quand on s'intéresse ici au modèle de Wegener, qui se construit avec cet héritage donc des chaînes de montagne perçues comme le refroidissement, théorie du refroidissement, qui se construit avec ce modèle de Suez, avec ces deux couches, qui se construit avec cette théorie de l'isostasie, qui dit en gros il faudrait imaginer que des roches flottent sur d'autres roches. avec un problème qui fait hurler, bien sûr, les géophysiciens, c'est la notion qu'une roche puisse être assimilée à un liquide, puisque ce que dit la théorie d'isostasie, c'est-à-dire qu'un solide peut reposer sur un autre solide et être régi par la poussée d'Archimède, ce qui, sur des solides, fait hurler les physiciens de l'époque. Dernier élément pour bien fixer ce cadre, toujours de manière très rapide, tant qu'on était sur un modèle de refroidissement, ici vertical, en quelque sorte, on avait pour habitude de dire que dans le modèle de la pomme flétrie, l'affaissement entraînait de la déformation latérale. Et les géologues qui observent le terrain, donc fin du 19e, s'intéressent beaucoup à l'importance des déformations latérales. Et là, on a une épine dans le pied rapidement. Albert Heim, qui défend le modèle précédent, fait des calculs pour savoir les Alpes, par exemple. Les Alpes, elles sont plissées, alors déplissons les Alpes. Déplissons les Alpes. Il est dans le cadre du refroidissement. Il déplisse les Alpes et il dit, en fait, elles devaient être deux fois plus larges au départ et donc elles ont été réduites de moitié par la déformation. Mais d'autres, en continuant à chercher, vont voir que ce n'était peut-être pas deux fois plus large, c'était peut-être trois fois plus large, quatre fois plus large, cinq fois plus large. Or là, c'est déjà une épine dans le pied pour certains, parce que comment un refroidissement pourrait entraîner une telle déformation latérale? Et effectivement, les questions sont en train de s'accumuler. Donc, pour reprendre ce modèle de science normale et approche d'une crise, on est dans une situation où il commence à y avoir quelques éléments qu'il faut raccrocher au modèle avec une certaine difficulté, même si Marcel Bertrand, cet homme qui, pour la première fois, observant ici donc, des zones alpines, va mettre en évidence d'énormes déplacements horizontaux qu'on appelle des nappes de charriage en géologie, c'est-à-dire des déformations qui se sont faites ici sur des kilomètres, un bloc qui est déplacé sur des kilomètres sans être plissé, même si, comme on le voit, c'est pour ça que j'ai mis cette citation, quand vous le lisez avec des yeux d'aujourd'hui, vous êtes persuadé que l'homme qui vous met en évidence que ce qui forme une chaîne de montagne, c'est entre autres d'énormes déplacements latéraux ou tangentiels, on se dit, on a trouvé l'homme qui va forcément nous dire que c'est de la poussée latérale, donc il faut cesser de penser en termes de vertical, mais pousser en latéral. Eh bien non, pas du tout. Cet homme conclut, ces énormes déplacements horizontaux se retrouvent dans toutes les grandes chaînes, quel que soit leur âge, et ils apportent un argument définitif en faveur de la théorie du refroidissement et de la contraction du globe terrestre. Les choses ne sont jamais aussi simples. Juste des noms pour évoquer l'autre grain de sable qui intervient, c'est que jusqu'à ce moment-là, le 19e était sur une version du refroidissement de la Terre, qui était donc la perte de la chaleur d'origine. La découverte de la radioactivité a deux conséquences. Une première sur le temps géologique, puisque Rutherford va proposer très rapidement qu'on s'intéresse aux minéraux qui contiennent des éléments radioactifs, car ces minéraux dans les roches pourraient être utilisés comme des pendules. Et donc c'est bien sûr ici la révolution de la possibilité de dater. Mais c'est l'autre élément qui m'intéresse. C'est que la radioactivité vient nous dire, eh bien, la Terre ne se refroidit pas depuis l'origine, elle produit de la chaleur. Si elle produit de la chaleur, ce qui était la base du calcul, le refroidissement depuis ses origines, perd tout son sens. C'est-à-dire que ce qui s'effondre, si on reprend le terme de Suez, ce qui est en train de s'effondrer avec la radioactivité, c'est la théorie du refroidissement. S'il n'y a plus de théorie du refroidissement, il faut reconsidérer la déformation. Donc, la déformation des chaînes qui était d'une ampleur autre qu'elle qui est prévue prend une autre signification. Wegener intervient sur une série d'arguments qu'on retrouve très bien dans son œuvre, puisque son ouvrage est composé par type d'arguments. Donc, il n'y a aucune difficulté à les retrouver. Premièrement, des arguments paléontologiques. Dans paléontologique, il faudrait le prendre au sens large. Paléontologique, et la richesse de Wegener, c'est de faire du paléontologique et à la fois du biologique. En effet, il note d'une part, à travers ses lectures, la répartition des espèces actuelles, où un grand nombre d'auteurs ont noté que certaines espèces existent à la fois en Amérique du Nord et en Europe. Qu'il s'agisse d'espèces qui ont la possibilité, entre guillemets, de traverser l'océan, ou d'espèces, et c'est fort intéressant, vous lirez l'article sur l'escargot, par exemple, de Wegener, ou l'escargot qui n'est quand même pas un animal bâti pour la traversée de l'Atlantique et qui se retrouve avec de très grandes proximités spécifiques en Amérique du Nord et en Europe. De l'argument biologique pour dire qu'il devait exister des communautés de territoires, des proximités de territoires autrefois, parce que, et c'est ça qui est extrêmement important, parce que Wegener dit, si la théorie de l'évolution nous a bien appris quelque chose, c'est de penser toutes les espèces dans son cadre, et que La différence qu'il peut y avoir entre les espèces anciennes et les espèces actuelles, entre la paléontologie et la botanique et la zoologie, est à penser dans ce cadre. C'est-à-dire que des espèces qui se ressemblent mais qui divergent quand même ont de fortes chances d'être issues du même ancêtre commun. Que ce même ancêtre commun, s'il a évolué différemment, c'est que les conditions du milieu ne devaient pas l'orienter de la même manière. D'où sa proposition. Comment résoudre le problème? Alors il passe en revue. Jusqu'à maintenant, on résolvait le problème avec les ponts continentaux. C'est-à-dire qu'on expliquait que l'escargot a traversé l'Atlantique grâce à un pont, l'arc Atlantis, une masse continentale qui se serait effondrée et aurait disparu dans l'océan Atlantique. Je dis ça parce que Wegener viendra avec plusieurs arguments là-dessus. Un, l'isostasie. Pour dire que c'est un corps plus léger, il ne peut disparaître dans un corps plus dense. Ce qui, c'est un géophysicien, ne suscite pas de réaction extrêmement positive de la part des botanistes et des zoos pour qui, finalement, c'est un argument de géophysicien. Et en plus, les géophysiciens ne sont même pas d'accord entre eux. Donc, ce n'est quand même pas un argument décisif pour faire disparaître les ponts continentaux. Mais Wegener va insister sur l'importance de ces ponts qu'il faut faire disparaître au cours du temps, comme ça nous arrange. Et qu'il y a une solution beaucoup plus simple, c'est de faire une seule masse et de se servir de la divergence qu'il peut y avoir, de la proximité ou de la différence entre les espèces actuelles et fossiles, pour dater ces séparations. Et dire que s'il y a une communauté paléontologique en Afrique et en Amérique du Sud jusqu'à telle époque, c'est que cette masse est continue, ne forme qu'un seul bloc jusqu'à telle époque, et au-delà, c'est parce qu'elles sont en train de diverger qu'il y a évolution et qu'il y a donc divergence. Donc il a une argumentation paléontologique extrêmement intéressante. Il a des arguments climatologiques. Il est météorologue. Ne pas l'oublier, mais des arguments de paléoclimatologues. Les roches ont enregistré des caractéristiques des autres époques. Ainsi, on peut trouver des roches qui témoignent de périodes glaciaires. On peut trouver des roches qui témoignent de réchauffement. Les tilites, qu'on appelle ces grosses roches à galets, nous marquent le passage de conditions qui étaient glaciaires à un moment donné. L'existence d'évaporites, des roches, des sels, qui s'évaporent comme on trouve dans les ceps cras actuellement, témoigne d'un climat sec, tropical, sec. Les bauxites, par exemple, sont des roches qui témoignent d'une altération en climat équatorial. Il faut énormément d'eau, énormément de... etc., etc. Et partant donc des arguments comment les roches témoignent de climats anciens, Wegener développe cette idée que si on regarde bien les masses continentales, on s'aperçoit que ce qu'on appelle le Gondwana dans le modèle de Suez devait former une masse unique qui, au cours du Carbonifère Permien, c'est-à-dire la fin d'une partie de cette histoire géologique qu'on appelle le primaire, est passée d'un état de glaciation au Carbonifère jusqu'à arriver à des températures tropicales au Permien. Mais, dit Wegener, la difficulté face à tous les opposants qui lui disent c'est bien simple, il faisait plus froid à cette époque-là, puis après ça s'est réchauffé. Le problème est de l'étendue qu'aurait dû couvrir le pôle sud pour couvrir jusque à l'Afrique du Sud, qui présente des galets froids, jusqu'à l'Inde, qui en présente, jusqu'à l'Australie. Et c'est d'autant plus gênant que le Timor, qui n'est quand même pas très loin de l'Australie, à la même époque, a des récifs coralliens. Et pour le climatologue, mais aussi les zoos, on sait que les récifs coralliens sont des zoos à 25-28 degrés. C'est très peu compatible, en 200 à 300 km, avec des banquises. Donc, il prend ici une série d'arguments climatologiques pour montrer que il y a une solution plus simple que tout ce qu'on va opposer, parce que ce qu'on oppose, c'est un, le pôle était beaucoup plus développé, mais ça n'explique pas que le Timor pourrait être à côté. Deuxième possibilité, celle que proposera Emil Hogue, c'est de penser que ces blocs-là étaient plus hauts. Donc c'est un effet comme en montagne, c'est bien que la température baisse quand on est en altitude. Donc on aurait pu avoir ici de basses températures, puis être passé à plus chaud, parce qu'il y aurait, à un moment donné, une poussée verticale, donc on est bien dans le modèle ancien, poussé vers le haut, et puis ça serait affaissé par la suite. Sauf que quand vous poussez d'un côté, dira Wegener, c'est que vous enfoncez en même temps. Vous pouvez toujours raffaisser après, mais il faut remonter. Donc ce qu'il dit, c'est si on me propose que toute cette masse était plus haute, donc plus froide, alors trouvez-moi la masse qui était plus basse à ce moment-là. Et par ce type de raisonnement, où il lit les deux, il prend des arguments en sa faveur et il contre d'autres arguments, il en arrive à la solution la plus simple, c'est probablement une translation des continents. Et évoque-t-il aussi peut-être une légère dérive des pôles, mais je n'ai pas le temps de les développer. Arguments pétrographiques et tectoniques, on va trouver des arguments très forts. Ce que met Wegener en avant, vous allez voir pourquoi j'ai mis du toit, c'est à partir des lectures, il a fait une biographie, une bibliographie importante. Et il s'est aperçu qu'on a décrit des terrains semblables au Brésil et en Afrique. Terrains semblables au sens où il s'agit des mêmes granites qui ont les mêmes propriétés, qui sont entourés par des roches métamorphiques qui ont les mêmes propriétés, mais qui ont aussi les mêmes orientations. Alors, ce n'est pas toujours évident, tout le monde ne fait pas de géologie, je sais bien, mais si on déforme une roche, je déforme des roches de ce genre-là, je donne une disposition particulière à mes feuilles, il y a une orientation qui est ici. Eh bien, quand je mesure l'orientation des roches qui se trouvent autour de ces granites au Brésil et que je mesure l'orientation des roches qui se trouvent autour des granites que l'on trouve en Afrique équatoriale, ce sont les mêmes orientations. La probabilité, selon lui, qu'on arrive à... Elle est infime, sauf si on considère que c'est la même masse au départ. C'est la même masse et on les a déplacées, ce qui explique l'orientation commune. Ce qu'on appelle un argument ici de déformation, donc un argument tectonique. Les arguments pétrographiques, c'est la nature des roches. Il va trouver un soutien énorme de la part d'Alexander Dutoit, qui est le grand spécialiste, le grand géologue sud-africain, qui fait une comparaison systématique entre l'Amérique du Sud et l'Afrique et qui aboutit à la conclusion qu'il n'y a qu'un seul moyen d'expliquer une telle convergence, c'est de ne faire qu'un seul bloc et de coller l'Amérique du Sud avec l'Afrique. Boris Schubert, français, fera une étude à peu près semblable aussi pour l'Europe et l'Amérique et montrera qu'effectivement, si vous réunissez ces masses, vous expliquez en gros une partie des continuités qu'on a bien du mal à comprendre autrement, continuité dans les structures et continuité dans les roches. Émile Argan, qui est le géologue alpin au sens large pour nous, c'est-à-dire c'est le spécialiste de l'Himalaya et des chaînes d'âge tertiaire, dans sa tectonique de l'Asie de 1924, qui est donc postérieure à la première publication de Wegener, va lui apporter un soutien énorme. Énorme parce que ce qu'il a observé, et il est incontestable du côté des techniciens, c'est un homme de terrain. Alors, un homme de terrain pour les géologues, ça veut dire quelqu'un qui a passé son temps à casser du caillou en continu dehors et qui ne théorise qu'après. C'est d'une certaine manière, un héritier du courant empirique de la géologie naissante. Et cet homme de terrain, ce qu'il appelle l'effet, ce qu'il a observé dans l'Himalaya, ne peut être compris que si on imagine un déplacement des masses continentales comme l'a proposé Wegener. D'où, j'ai repris ici, c'est bon, traduit pour certains des termes, mais sinon cette publication était en français pour la grande partie. Aucun de ces faits ne démontre en rigueur la théorie mobiliste. Les faits dont il parle, c'est l'ensemble des faits qu'il a pu observer en Himalaya. Ou simplement l'hypothèse de la présence du sima, donc la présence du sima, c'est la présence de cette couche qui se trouvait sous les continents, mais tous s'accordent parfaitement avec l'une et l'autre au point de les rendre très vraisemblables. Et plus loin, il dit... La validité d'une théorie n'est rien d'autre que son aptitude à représenter l'ensemble des faits connus au moment où elle accourt. À ce compte, la théorie des grandes translations continentales, autre nom donc de la théorie de Wegener, est d'une validité florissante. Il a un appui énorme du côté de la tectonique, c'est-à-dire du géologue de terrain. Il n'a, dernier argument que j'ai mis ici, argument géomorphologique que je n'ai pas évoqué, mais qui était l'argument de départ, c'est la complémentarité des côtes. Or, entre la première publication de Wegener, donc de 1915, et les publications qui suivent, on s'est intéressé non plus à la limite du trait de côte, mais à la limite du plateau continental. Quand on suit, d'un point de vue bathymétrique, quand vous descendez sous l'eau, on observe que les continents se prolongent sous les océans jusqu'à arriver à une rupture brutale. Alors, quand je dis se prolonge, c'est que vous partez là, bien sûr, on le sait, là, sur le golfe de Gascogne, vous avancez avec une pente de 2 degrés jusqu'à arriver à un moment donné où ça plonge de 200 mètres, ça passe à 2500 mètres de profondeur et 4500 mètres, 5000 mètres de profondeur, ce qu'on appelle le talus continental. Eh bien, si on essaye non plus de faire se compléter la carte ou la planisphère géographique, mais une planisphère géographique où le contour des continents ne soit plus le trait de côte, mais la limite ici du plateau continental, du haut du talus, on s'aperçoit que la complémentarité est bien meilleure. Donc cet argument géomorphologique qu'il avait, qui est un argument essentiellement géographique, quand on l'additionne avec de la donnée bathymétrique, ça s'améliore. Et dans cette période qui t'intéresse, ça s'est fortement amélioré. Il me reste 5 minutes. Hein? Bon. Donc, dans ces 5 minutes, j'ai mis modèle physique. Le modèle dans lequel pense Wegener, c'est ce modèle Sial-Sima qu'on retrouve donc chez Édouard Suez, que j'ai évoqué tout à l'heure. Ce modèle, pour lui, a une pertinence énorme. C'est le seul qui permet d'observer la répartition ici des niveaux altitudinaux. Alors l'idée, c'est si on découpe toute la planisphère par petite surface d'un kilomètre carré, qu'on en prend l'altitude moyenne, qu'on trace ainsi une courbe de la fréquence des altitudes moyennes, Si on était dans un modèle d'effondrement par refroidissement, il devrait y avoir une altitude moyenne, une courbe de Gauss, avec une valeur à 2450 mètres à peu près, dit-il. Tandis que ce que l'on observe, ce n'est pas du tout ça, c'est deux niveaux, un moins 4700 mètres et un plus 100 mètres. Deux niveaux, c'est en faveur d'une croûte terrestre formée de croûtes continentales légères reposant sur une croûte océanique lourde. Donc son modèle, qu'on peut appeler un modèle de la bicouche, hein, si on prend une image de la biologie, son modèle de la bicouche, son modèle Sial-Sima, c'est le modèle dans lequel il pense ici son mouvement. C'est un modèle qu'on reprendra et généré chez Gilbert. J'ai mis juste une petite citation de Wegener. Les connaissances géophysiques ne s'opposent pas à penser les continents légers comme flottant sur les océans lourds. La géophysique peut aller en ce sens. Mais le ne s'oppose pas signifie aussi que ce n'est pas pour autant que les géophysiciens l'appuient. Et c'est le cas. Les géophysiciens ne sont pas tous convaincus de ce modèle. Deuxième élément qui m'intéresse, c'est la discussion sur terre liquide ou terre solide. Si la Terre est solide, défend William Thomson, c'est parce qu'on est obligé de l'imaginer solide parce qu'elle transmet les ondes sismiques, dont on n'a pas le temps de causer. On a parlé un peu de sismo ce matin, j'entendais que Jérôme travaille sur la sismologie. Il faut que ce soit solide pour être transmis. Or, les ondes, quand je dis hors les ondes, c'est hors les ondes qu'on appelle ondes de cisaillement ne peuvent être transmises que dans les solides et elles existent, donc la Terre est solide. Le raisonnement, c'est aussi celui qu'on utilise avec des élèves aujourd'hui pour penser les structures de la Terre, mais c'est le modèle de Thomson pour dire tout est solide. Or, si tout est solide, il n'y a pas de déplacement possible des masses, c'est-à-dire qu'il ne peut pas y avoir déplacement d'un solide sur un autre solide. Ceci nécessiterait que sous ces deux niveaux que sont le Sial et le Sima, il y ait une partie qui soit liquide et qu'on puisse penser de la déformation sur un liquide. La réponse, elle vient de plusieurs auteurs, dont Osmond Fischer, c'est l'idée qu'il ne faut pas nécessairement penser toute la partie centrale comme liquide. Si on a une forte croûte solide, on peut penser un liquide en dessous, ça n'est pas gênant, c'est-à-dire que c'est compatible avec ce modèle précédent de Thomson. L'autre problème, on n'a pas le temps de l'évoquer, c'est le problème des marées. Il y a une longue discussion à savoir, est-ce que les marées lunaires ne fractureraient pas les masses continentales si elles reposaient sur un liquide ? On n'a pas le temps de le reprendre. Le modèle de Wegener qui va être développé ici, c'est un modèle où la viscosité ici des couches qui forment cette croûte est suffisante pour que lorsqu'il y a rotation de la Terre, il y ait découplage entre la vitesse de rotation des continents et la vitesse de rotation de ce qui forme le fond des océans, c'est-à-dire le sima. Son idée, c'est un météorologue. Il est influencé par des courants, par les forces de Coriolis et autres. Et donc, pour lui, cette rotation antihoraire de la Terre a pour conséquence de dissocier le déplacement du sima, qui est en dessous, des masses continentales. Donc, exerce une traction sur les masses continentales qui peuvent alors être déchirées et entraînées par la rotation. Pour preuve, eh bien, quand on regarde l'océan Atlantique et au-delà, quand on regarde l'Amérique, on s'aperçoit que l'Amérique est une chaîne de montagnes d'un côté, vers l'ouest, et vers l'est, on trouve des chapelets d'îles, les îles des Caraïbes, dont on parlait dernièrement. C'est-à-dire du côté où ça tire, effet de proue à l'avant, on déformerait les continents qui sont en train de dériver vers l'ouest, et effet de poupe à l'arrière, on arracherait des lambeaux de continents qu'on trouverait dans le sillage. Donc son modèle pour la partie dynamique, c'est celui-ci. Il repose fondamentalement sur une viscosité suffisante qui permet la rotation. L'opposition, elle vient d'Harold Jeffreys. Vous notez ses dates. Très jeune, il nous sort, très jeune entre guillemets, hein, en 1924, il nous sort The Earth, Its Origin, History and Physical Constitution, qui va rester jusqu'en 1965 à peu près, la Bible de la géophysique américaine. Et il est fondamentalement opposé aux idées de Wegener. Il est impossible pour lui de penser une viscosité qui permette de tels déplacements. Je finis en passant autour de cette radioactivité, juste pour dire que la radioactivité apporte un petit peu de données nouvelles dans les années 15-20, parce qu'en essayant de dater, on cherche les minéraux qui contiennent des éléments radioactifs, on cherche la répartition, et on note que les éléments qui sont radioactifs, les minéraux qui contiennent donc des éléments radioactifs, ne sont pas répartis de manière homogène, et qu'il y en a beaucoup plus dans les zones continentales, donc sous les continents. D'où l'idée que si au début il y avait une masse de continents unique, une pangée, c'est sous cette masse qu'était produit l'excès de chaleur. S'il y a un excès de chaleur, le sima qui est en dessous est beaucoup plus chauffé. s'il est plus chauffé à un endroit, eh bien, il tend à pousser sur les côtés. Et s'il se déplace latéralement, alors il doit exercer une traction sur le continent. Et la traction peut peut-être permettre la fracturation du continent. Et si vous fracturez le continent, qu'est-ce que vous verrez? Ce qu'il y a en dessous, le sima. C'est-à-dire que dans les derniers textes de Wegener, mais Wegener meurt en 30, dans ces derniers textes, il a une autre piste développée ici par les géophysiciens qui travaillent sur l'hétérogénéité de la répartition de la radioactivité et qui propose ce que l'on va trouver ici chez Holm de proposer dès 29, c'est l'idée d'une dynamique liée à des courants de convection à l'intérieur. On ne parle pas encore du manteau dans ces modèles-là, mais du sima, le lien entre le sima et le cial. Bon, juste pour finir, 1929, il y a une grande cérémonie organisée par les pétroliers américains pour faire le point sur la théorie de Wegener. Rollins Thomas Chamberlain dit « Si nous devons croire en l'hypothèse de Wegener, il nous faut tout oublier de ce que nous avons appris depuis 70 ans et repartir à zéro. » Vous avez compris, c'est qu'il y a d'autres oppositions aussi. En gros, ce que propose Wegener obligerait plusieurs communautés à considérer qu'ils sont sur des modèles qui sont faux, qui ne tiennent pas. Il faut faire table rase et repartir. L'opposition, elle est très très forte. Il y a un conservatisme très très fort là-dessus. Et je vous invite aussi à lire Naomi Oreskes, The Rejection of Continental Drift, parce qu'il y a d'autres raisons aussi qu'on a derrière. Wegener est allemand. Wegener est allemand. Il sort son livre en 1915, on l'a évoqué ce matin. Et du côté des critiques américaines, on trouve des critiques qui sous-tendent d'autres arguments. Par exemple, nous sommes habitués au conte allemand, au Märchen. C'est-à-dire que les Allemands, la science allemande est une science de conte. Donc on a des... C'est-à-dire qu'on n'est pas dans une discussion scientifique très rapidement. On est dans d'autres choses qui vont masquer un certain nombre d'arguments. Et puis, il y a une épistémologie, j'ai dépassé, c'est de ma faute, donc je n'insiste pas. Il y a une épistémologie, juste deux mots là-dessus, différente. C'est que du côté de la démarche de Wegener, qui est celle de naturaliste et celle de géologue, si on a un ensemble d'arguments qui force à imaginer une fracturation des continents, ça n'est pas parce qu'on n'est pas sûr du modèle qui crée cette fracturation, c'est-à-dire ça n'est pas parce qu'on n'a pas identifié avec pertinence la cause que la conséquence disparaît. Et la position épistémologique très forte de la géophysique de l'époque, c'est que s'il n'y a pas de cause, il n'y a pas de conséquence. Et que vous pouvez toujours additionner autant de données que vous voulez, ça ne changera rien à cela. On est dans l'autre position. Et il y a une incompréhension très forte entre ces deux communautés. Donc, tous les arguments qui sont vus comme arguments par certains, en face, ne sont pas du tout pensés comme arguments. Ce sont des phénomènes extérieurs. Merci. Désolé, je suis trop bavard, même quand j'écris. Alors, bon. Minutes.
Bon, on n'a pas beaucoup de temps. Je suis désolée, c'est passionnant cette théorie géologique. Vraiment, non. Merci beaucoup, Monsieur Sabaton. Merci beaucoup, Pierre Sabaton. C'était vraiment très très passionnant. Est-ce que on a un peu de temps pour 5 minutes pour la discussion avant le taxi arrive. Alors 5 minutes pour les questions. Y a-t-il des géologues dans la salle?
C'est pas trop dur pour des non-géologues.
Non, mais il vous faudrait 2 heures à chacun, hein, ça c'est clair. Ou qui veut? Ça sera peut-être la seule question, madame.
Je me demande comment vous disiez que le Suez étudiait les fossiles dans les Alpes. Comment il a interprété le fait qu'on retrouve des faunes marines dans les Alpes?
Dans le modèle de Suez, alors ça n'est pas gênant pour le problème de la contraction, puisqu'au fur et à mesure que la Terre se contracte, donc vous créez des reliefs, donc ces reliefs remontent, la mer se retire et vous découvrez des terrains qui étaient autrefois des terrains marins. Ceci donc ne pose pas de problème. Ça pose un problème du côté de la théorie de la permanence, parce que ce qu'on peut opposer à la théorie de la permanence, c'est les transgressions et régressions, c'est-à-dire que sur des mêmes lieux géologiques, on sait qu'à un moment donné, il y a mer, puis il n'y a plus la mer, puis il y a à nouveau la mer, puis il n'y a plus la mer. Or, dans le phénomène de la permanence, c'est difficile à penser, parce que si la mer se retire régulièrement et graduellement, jamais elle ne revient en arrière. Alors que dans le modèle du refroidissement avec effondrement, eh bien, on a effondré. Si on effondre un petit peu plus vite ici, une zone qui était un relief se retrouve à plonger, et puis l'autre qui était plongée remonte. Donc, on peut avoir au cours du temps une succession. Donc, un des modèles le proposait, celui de la permanence ne le proposait pas. Donc, ils ont des points faibles, mais pas celui-ci pour le modèle de Suez.
De toute façon, ils peuvent vous écrire.
Oh, sans aucun problème. Avec plaisir, je répondrai.
Écoutez, je suis très contente de cette journée. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'était très, très bien. Merci, merci à nos intervenants.
Je tiens au nom peut-être des autres intervenants, mais j'en suis sûr, aussi à remercier pour l'accueil et l'organisation qui vraiment est parfaite.
Merci beaucoup. C'est toujours un plaisir, de toute façon, de vous accueillir à Poitiers. Et puis, voilà, on va les applaudir, nos intervenants. Donc, je voulais vous dire que si vous avez besoin d'informations pour ce qui concerne la bibliographie, je veux que vous regardiez les livres. Il existe aussi sur le site de la BNF les signets de la BNF. Ça s'appelle les signets de la BNF, où il y a les acquisitions en histoire des sciences et des techniques. Vous pouvez trouver. Donc là, comme on a un peu de temps, puisque nos amis, malheureusement, prennent leur taxi, je vous invite à prendre un petit goûter, parce qu'on ne l'a pas pu tout à l'heure, donc on a la pause maintenant. Donc, merci. La pause des enfants, voilà, exactement. Donc, merci à tous.